France Musique. Été classique, les grands interprètes, France Musique.
Argerich. Oprócz głównego lauru także mnóstwo nagród dodatkowych, wśród nich za najbardziej polskie wykonanie mazurków.
I would like to do something different, but I have to... I don't know how.
Es muy cariñosa y diplomática. Dice las cosas sin decirlas.
Of course, Prokofiev is my best friend, I could say. I mean, he has never let me down. It makes me happy.
Aujourd'hui, second opus d'une série de 5 émissions consacrée à une déesse de l'ivoire, Martha Argerich. 5 épisodes dans lesquels nous tentons de retracer une partie de sa vie et de sa discographie, et tout cela en évoquant aussi bien ses plus beaux enregistrements CD, ses partenaires privilégiés, des anecdotes et quelques témoignages plus rares. Et ce matin, deuxième épisode, l'après-concours Chopin, les années 70 et les grands disques solos chez Deutsche Grammophon. Nous sommes en 1966. Grâce au concours Chopin remporté l'année précédente, Martha Argerich est de nouveau dans les circuits internationaux. Le début des années 60 avait marqué un passage à vide assez difficile pour elle. Mais on est désormais à l'époque des débuts au Carnegie Hall du déménagement de Martha Argerich en Angleterre. Elle s'installe en effet vers la fin de cette année 1966 dans le London Music Club. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de pension d'artistes qui compte surtout des musiciens, une pension tenue par une certaine Mrs. Armstrong, dame d'un certain âge particulièrement excentrique. Aujourd'hui, on ne trouverait pas trop d'équivalent, mais c'est dans l'air du temps à l'époque. Martha Argerich, elle y habite avec plein d'amis et collègues, Nelson Frère, Stephen Kovacevic, Raphaël Orozco, Dora Bakopoulos et même Julius Katchen, le fameux spécialiste américain de Brahms, qui est le doyen du groupe. Et c'est une vraie vie communautaire qui prend forme. Les pianistes se voient tout le temps, mangent ensemble le soir, vont au concert des uns des autres. Et puis pour Martha Argerich, finalement, c'est assez proche de son idéal de vie, d'autant qu'elle ressentait juste avant le besoin urgent de partir de Suisse où elle étouffait. Et puis, cerise sur le gâteau, elle venait de perdre la garde de sa première fille, Lida, fille aînée issue d'une liaison avec le chef d'orchestre chinois Robert Chen. En fait, en emmenant Lida voir sa mère, alors qu'elle était en pouponnière, Juanita, la mère de Martha, a malheureusement déclenché un drame, puisqu'il y a eu des accusations de kidnapping. Et Lida, la fille de Martha, a été de nouveau placée en pouponnière. Toujours est-il qu'elle va multiplier en quelques années les histoires. Elle va vivre un amour de 3 ans avec Stefan Kovacevic, suivi d'un mariage avec le chef d'orchestre Charles Dutoit, avec lequel elle va avoir une seconde fille, Annie. Et c'est à peu près à cette période, plus précisément en juin 1971, qu'elle va faire un nouvel enregistrement chez Deutsche Grammophon, un nouvel enregistrement qui éclatera comme une bombe dans le milieu musical. Thank you. Martha Argerich dans la sonate en si mineur de Liszt, un enregistrement sorti au tout début des années 70 et qui fait évidemment grand bruit à l'époque. On n'avait jamais interprété la sonate de manière si audacieuse, si moderne aussi, et de manière finalement assez épurée si l'on écoute ce qu'elle fait dans les passages plus tranquilles, le thème de Gretchen. On peut penser que c'est une esthétique qu'elle doit à l'enseignement de Nikita Magaloff notamment. Mais bon, elle a beau multiplier les succès au disque, ce n'est pas pour autant une période facile pour Martha Argerich. C'est aussi à cette époque qu'elle subit quelques premières pertes financières importantes du fait de ses annulations. Elle annule notamment ses débuts avec le Philharmonique de New York. Elle était censée jouer avec Leonard Bernstein. Il faut savoir qu'à l'époque, même si ce n'est plus le cas pour elle aujourd'hui, Martha Argerich signait ses contrats avant les concerts. Et traditionnellement, ce qui se passe dans ce cas, c'est qu'en cas d'annulation, l'artiste doit soit présenter un certificat médical, soit payer une amende assez lourde. D'où des pertes importantes pour Martha Argerich en cette année. Et c'est assez intéressant de constater que cette façon d'annuler les concerts est venue un peu par hasard. Martha Argerich elle-même raconte que c'est à 17 ans qu'elle a annulé un concert pour la première fois. Bizarrement, pas parce qu'elle se sentait mal, mais elle voulait apparemment juste voir ce que ça faisait. À ce moment-là, elle était seule dans une pension à Florence. Elle devait aller jouer à Emboli, lieu de naissance de Busoni. Et puis elle s'est dit « je n'ai pas envie de jouer ». Elle lisait d'ailleurs l'immoraliste de Gide à ce moment-là sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et pour elle, annuler un concert, c'était à peu près la seule chose à laquelle elle pouvait penser pour mettre en pratique ce qu'elle lisait parce que c'était une transgression. Alors elle envoie un télégramme disant qu'elle s'est blessée au doigt, qu'elle ne peut pas venir, mais afin d'assurer ses arrières, elle s'est quand même mise en tête de prendre une lame et de se couper un peu le doigt pour de vrai, de sorte que sa blessure soit tout à fait véridique. Finalement, les organisateurs ne reçoivent pas le télégramme, viennent la chercher, avisent la blessure et la voilà libérée. Sauf que la semaine suivante, elle doit jouer ailleurs et elle a envie de jouer, mais cette fois-ci, c'est la coupure qui l'en empêche. Enfin, heureusement qu'il est des œuvres que Martha a tellement plaisir de jouer que ça rattrape généralement les envies d'annuler ou de fuir la scène. Et une de ses œuvres, c'est la partita en do mineur de Bach. Martha Argerich explique qu'avec cette partita, elle se sent toujours très à l'aise pour commencer. Elle adore cette musique, ça la calme. Elle se sent un peu comme si elle improvisait, dit-elle. Thank you. Capriccio de la seconde partita par Martha Argerich, l'une de ses plus grandes spécialités maison dans le répertoire Jean-Sébastien Bach, un Bach qui parle à tous les publics d'ailleurs. Martha raconte qu'une fois à New York où elle jouait cette partita, un critique d'une revue de jazz est venu la voir en lui disant « Vous savez, votre Bach, it swings, really !» Un swing qu'elle a toujours ressenti, dit-elle, alors que ce n'est pas du tout le cas dans la musique romantique, bon, et sans doute avec raison. Dans ce CD Bach paru en 1980, où on trouve la seconde partita, il y a aussi une lapidaire deuxième suite anglaise de Bach, toujours pleine de caractère. Je vous propose d'écouter ensemble la gigue. La gigue de la deuxième suite anglaise par Martha Argerich, où comble du chic et de la virtuosité, elle reste hyper carrée dans la pulsation malgré les trilles, alors que chez la plupart des interprètes, il y a un petit trébuchement au moment de ces trilles. C'était un deuxième extrait de ce CD Bach que Martha Argerich enregistre en 1980 et dans lequel on sent à la fois ce que certains appelleront son swing, c'est pas du tout la manière romantique de ses aînés d'aborder cette musique, mais on sent aussi, et ça fait partie de l'excitation du côté captivant, son envie d'avancer toujours plus dans la musique, un certain désir d'accélérer à peine réfréné. Au point que Martha Argerich avouera elle-même que son jeu est un peu comme une écriture dont les lettres finiraient par pencher vers la droite, dans la hâte d'arriver plus vite à la suite. Et cela, sauf à l'époque où elle était enceinte de sa troisième fille, Stéphanie, où elle estime qu'elle jouait alors de manière beaucoup plus retenue dans le tempo et le caractère. Son disque Ravel, avec Gaspard de la Nuit notamment, date justement de cette époque où elle était enceinte de 6 mois ou 7 mois. Elle raconte, Martha Argerich, que quand on lui a envoyé les épreuves du disque, elle a failli pleurer tellement pour elle ça sonnait comme une pregnant housewife, une femme au foyer enceinte. Loin de l'idée complètement démoniaque qu'elle se faisait de cette œuvre. Et pourtant, Dieu sait que c'est un des disques qui a rencontré le plus de succès dans sa discographie. Là encore, la différence parfois énorme de perception entre l'interprète et son public. Et cette interprétation de Gaspard de la Nuit a même marqué un tournant. Les pianistes ont eu tendance à enregistrer à des tempi beaucoup plus vifs ce Gaspard de la Nuit depuis ce disque de Martha Argerich.
Thank you.
L'Allegro maestoso, premier mouvement de la troisième sonate en si mineur de Chopin, interprété ici par Martha Argerich en 1967 pour les micros de Deutsche Grammophon. Et quelle merveille que ce caractère très libre dans le tempo, lagogique, mais sans qu'on ait l'impression à aucun moment que ces variations de tempo soient préméditées. Ça a l'air d'être toujours réalisé dans l'instant, et c'est certainement ce qui permet de conserver complètement cette noblesse du ton, sans jamais tomber ni dans le sucré, ni dans l'affecté. Un enregistrement où l'on trouve aussi un final absolument démentiel dans la virtuosité dont les dernières pages sont de la pure pyrotechnie où l'on n'entend plus du tout les notes individuelles mais plus que d'aveuglantes gerbes. Martha Argerich, qui à cette époque a énormément de Chopin dans les doigts, dont une bonne partie a prise en vue du concours Chopin à Varsovie 2 ans auparavant, l'après-concours Chopin, c'est une période où elle reprend confiance en elle, elle déchiffre beaucoup, monte de nouvelles choses. Et quand on lui pose la question de l'équilibre à trouver entre répertoire nouveau à monter, répertoire qu'on reprend, qu'on recycle, Martha Argerich a tendance à dire qu'à un moment dans la carrière arrive un stade où les choses se stabilisent plus ou moins sur ce plan-là, où les nouvelles demandes commencent à équilibrer les demandes pour du répertoire déjà travaillé, sans tomber pour autant encore dans l'habitude ou le poncif. Une partie, par exemple, de ce qui était neuf pour Martha Argerich en 1965, mais qu'elle a eu le temps d'apprivoiser, ce sont les mazurkas. Elle avait même reçu le prix de la critique pour la meilleure mazurka du concours. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi la première ballade en sol mineur de Chopin, travaillée à fond dans le même élan et que je vous propose d'écouter tout de suite.
Thank you.
C'est sur cette ballade numéro 1 en sol mineur de Chopin, enregistrée en 1967, où elle semble avoir mis un tigre dans son piano, Martha Argerich, que s'achève ce deuxième épisode à propos des grandes pages du répertoire solo, ainsi que les années 70 avec notre pianiste argentine. Seconde sur les 5 émissions que je lui consacre cette semaine. Demain, on écoutera la pianiste en compagnie de ses plus chers partenaires, Misha Maeski, Gidon Kremer, mais aussi Yuri Bashmet ou Claudio Abbado. Pour l'heure, je remercie Davy, travailleur à la réalisation, Jean-René Bonissant, José Bernès à la technique, Youtou, Diego Aclopez à la cabine et tous ceux qui ont aidé à rassembler les témoignages et les anecdotes que nous possédons sur Martha Argerich. Bientôt midi, l'heure du Festival France Musique. C'est juste en face du couloir et c'est avec Saskia Deville. Bonjour
oui,
Saskia.
Bonjour Julien. Si je me penche un petit peu, je pense que je vous vois de l'autre côté du couloir,
ah,
dans l'autre
possible.
Studio. Coucou Julien.
Coucou.
Mais merci beaucoup et on vous retrouve demain.
Oui, bonne émission et à demain.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.